VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakis à la présentation de cette édition du mercredi 28 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Le calme est revenu au Tchad après des échauffourées de mardi. Recrudescence des attaques armées au Burkina Faso, au moins 18 morts hier dans la région du Sahel. Le président somalien renonce à prolonger son mandat, il appelle au dialogue et à la tenue d'élections. Le président américain Joe Biden s'exprime ce soir pour la première fois devant le Congrès, 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Calme précaire au Tchad, au lendemain d'affrontements entre des manifestants et l'armée au pouvoir qui ont fait au moins 5 morts. Ce mercredi, la population de N'Djamena n'a pas répondu aux mots d'ordre des groupes d'opposition et de la société civile qui ont appelé à la poursuite des manifestations. Le point avec Nathalie Barge.
Les forces de sécurité ont été déployées en grand nombre à N'Djamena, où des pneus brûlaient encore ce matin dans les rues. Des jeunes ont tenté de sortir de quelques quartiers, mais ont été vite dispersés. L'humoriste dit gris par terre, un des meneurs de la contestation, a précisé faire une pause pour marquer le deuil de la journée d'hier. La société civile a annoncé 9 morts. Dans un tweet ce mercredi, le leader du mouvement Les Transformateurs, Succès Masra, a indiqué que l'ambassadeur américain David Gilmour a rendu visite au mouvement citoyen. Le local des jeunes militants était toujours encerclé par les forces armées ce matin. Les rebelles basés en Libye du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, qui ont revendiqué la mort d'Idriss Déby, ont publié une déclaration condamnant le recours à la force contre les manifestants et ont affirmé leur volonté de rester engagés dans la lutte pour une transition démocratique.
Amnesty International demande instamment aux autorités tchadiennes de diligenter une enquête indépendante sur les circonstances des tueries de mardi et de traduire en justice toute personne soupçonnée d'être responsable. Au Burkina Faso, au moins 21 civils ont été tués en 48 heures, dont plus d'une dizaine dans une série d'attaques dans la région du Sahel. L'émotion a été vive à Ouagadougou au lendemain de l'annonce de l'exécution des 3 Européens dans l'est du pays. Les précisions de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Au moins 18 morts des civils dans des attaques des villages de Sofekel, Yatako, Tao, Seitenga, dans le Sahel burkinabé. Selon le gouvernement, il s'agit de terroristes qui ont posé des actes d'intimidation, de pillage et d'assassinat sur ces populations civiles. Le gouvernorat du Sahel, dans un communiqué, annonce 8 morts et 1 blessé grave comme bilan provisoire. Toujours selon le gouverneur, ces attaques ont entraîné un déplacement massif des populations. Certaines sources locales et sécuritaires parlent d'une vingtaine de morts, des bilans bien plus supérieurs à celui donné par le gouvernement. Avant ces incursions de terroristes dans ces villages du Sahel, lundi, 3 Occidentaux, 2 Espagnols, des journalistes et le directeur d'une ONG environnementale irlandaise ont été tués sur l'axe Fadan-Gourma-Pama dans l'est du pays. Il s'agissait d'une patrouille mixte anti-braconnage composée de militaires, de forestiers, de formateurs et de journalistes qui a été la cible de cette attaque. Un Suisse a pu s'échapper et est arrivé hier soir à Ouagadougou. Un soldat burkinabé, selon le gouvernement, est toujours porté disparu. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les corps des 3 Européens tués dans l'est du Burkina Faso, deux journalistes espagnols et un défenseur irlandais de la faune, ont été ramenés à Ouagadougou avant leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi avoir déjà programmé un vol du ministère de la Défense pour rapatrier les corps de David Beyrian et Roberto Frail. L'Irlandais tué au Burkina Faso en compagnie de ses deux journalistes espagnols s'appelait Rory Young et était président d'une ONG de protection de la faune Chengeta Wildlife. Quelques 29 millions d'habitants de 6 pays du Sahel ont besoin d'une aide humanitaire et de protection selon des agences de l'ONU et des organisations non gouvernementales. Ce chiffre représente 5 millions de plus qu'il y a un an. Nous y reviendrons dans notre page magazine. Une Rwandaise accusée de crimes durant le génocide de 1994 contre les Tutsis a comparu mercredi brièvement devant un tribunal de Kigali. Béatrice Mounié-Nyenyezi a été expulsée des États-Unis et arrêtée le 17 avril à son arrivée dans la capitale rwandaise. C'était après avoir purgé une peine de 10 ans de prison aux États-Unis pour avoir menti sur son implication dans le génocide. Son mensonge lui avait initialement permis d'obtenir la nationalité américaine. Elle est visée par la justice rwandaise de cette chef d'accusation liée au génocide. Son mari, Arsène Shalom Naobali, a été condamné à 47 ans de prison en 2013 par le Tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR d'Arusha en Tanzanie pour son rôle dans la milice Interahamwe. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed s'est dit résolu à appeler à la tenue d'élections sous la pression de ses alliés. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Mes partisans et moi avons toujours été prêts à organiser des élections pacifiques et au moment approprié dans le pays, a assuré le président somalien dans son discours, précisant que leurs initiatives ont été entravées par des individus et des entités étrangères qui veulent déstabiliser le pays et créer un vide constitutionnel. Monsieur Mohamed, surnommé Farmajo, doit s'adresser au Parlement samedi pour obtenir le feu vert sur le processus électoral. Il a appelé tous les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes sur la manière de conduire le vote. La tension était vive hier à Mogadiscio, deux jours après des échanges de tirs qui ont fait 3 morts. La mission de l'ONU sur place se dit très alarmée par la fragmentation de l'armée nationale selon des lignes claniques. Des unités fidèles à l'opposition ont érigé des barrages et contrôlent des pans entiers de la capitale.
Le président sud-africain et du parti historique au pouvoir, l'ANC, Cyril Ramaphosa, a reconnu mercredi que son parti aurait pu contrer davantage la corruption rampante sous son prédécesseur Jacob Zuma. Surnommé l'oncle Cyril, il a exprimé des regrets devant une commission consultative qui enquête sur la corruption pendant la période 2009-2018. Monsieur Ramaphosa a exhorté tous les membres du parti à coopérer avec la commission. Son témoignage doit se poursuivre jeudi. La plus haute juridiction du Malawi a déclaré mercredi la peine de mort inconstitutionnelle et a ordonné le réexamen de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. La peine capitale a longtemps été systématique pour les prisonniers reconnus coupables de meurtre ou de trahison et possible pour les viols. Le premier président démocratiquement élu du pays, Bakili Mulusi, s'est opposé à ce châtiment lorsqu'il a pris ses fonctions en 1994. Selon Amnesty International, la dernière exécution d'une vingtaine de prisonniers au Malawi remonte à 1992.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden s'exprime ce soir pour la première fois devant le Congrès à la veille de son 100e jour à la Maison-Blanche. Il va revenir sur son bilan et décliner son plan pour faire face aux inégalités. Le point avec Abdulrahman Dia.
Le président Joe Biden va dévoiler devant une audience de 200 personnes au lieu des 1500 habituellement son projet pour les familles américaines. Le plan qui suscite déjà la colère des républicains est ambitieux. 1 800 milliards de dollars centrés sur l'éducation et l'aide aux familles avec des investissements et des réductions d'impôts pour la classe moyenne. Pour le financer, le démocrate va proposer d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches adoptées sous Donald Trump et d'augmenter les impôts pour les Américains qui gagnent plus de 400 000 dollars par an. Pour cela, il lui faudra convaincre les républicains et certains démocrates modérés qui sont loin d'être à bord. À la tribune, le président démocrate devrait également vanter les progrès extraordinaires, selon ses termes, réalisés aux États-Unis ces derniers mois face au COVID-19. Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% de la population, sont considérées comme totalement vaccinées. Il évoquera également sa vision des relations entre les États-Unis et le reste du monde.
Le Premier ministre français Jean Castex a condamné mercredi avec la plus grande fermeté une tribune signée par des militaires. Une vingtaine de généraux dénoncent le délitement qui frappe la patrie, la haine entre communautés alimentée par un certain antiracisme ainsi que l'islamisme et les hordes de banlieue, soumettant une partie du territoire à des dogmes contraires à la Constitution. La ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré lundi avoir demandé des sanctions contre les signataires. L'Union européenne doit se préparer à des moments difficiles avec la Russie, dont les autorités semblent avoir choisi de manière délibérée d'accroître les tensions avec l'Occident, a averti Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Claire Montrégibourg.
Le Mali va être appuyé par la Banque africaine de développement pour la création d'agropoles, ou appelée également zone spéciale de transformation agroalimentaire, dans les grands bassins des régions de Ségou, San, Kolikoro et Sikasso. Ces agropoles doivent participer à la création d'emplois durables en faveur des femmes et des jeunes. La BAD estime qu'une vingtaine de PME-PMI vont être créées d'ici 2025. Par ailleurs, des investissements seront ciblés vers 25 centres de transformation agricole dans trois zones spéciales à Bamako, Ségou et San. La Suisse va débloquer 272 millions d'euros pour aider les pays en développement à lutter contre la pandémie. Un tiers de la somme ira à Gavi, un partenariat public-privé basé à Genève, qui coordonne notamment la distribution des vaccins anti-Covid pour les pays défavorisés dans le cadre du système COVAX. L'institution danoise de financement du développement IFU a fait de l'Afrique une zone prioritaire pour ses investissements. IFU a émis pour la première fois une obligation multidevise qui permettra d'accorder des prêts en plusieurs devises locales à une vingtaine d'institutions financières en Afrique. L'obligation sera cotée à la Bourse du Luxembourg.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Sixième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Ce soir sur le continent, vous le savez, six clubs qualifiés pour les quarts de finale sont déjà connus. Il reste donc deux places à prendre et le suspense se joue dans le groupe A. Les quatre équipes ont leur chance de qualification. Les Sud-Africains des Orlando Pirates font face aux Nigériens de Nimba et les Libyens d'Al Ahly jouent les Algériens de l'ES Sétif. Dans les autres groupes, c'est la première place qui suscite la convoitise déjà qualifiée. Le CS Sfaxien et le Jaraf de Dakar disputent face-to-face le leadership du groupe. Dans le groupe B, la JS Kabylie et Coton Sport, qui ont chacun 9 points, se livrent un duel à distance. Situation un peu différente dans le groupe D, où le Raja Casablanca veut rester invaincu dans cette phase de poule. En Europe, la deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions se joue ce soir. Le Paris Saint-Germain des Sénégalais Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo reçoivent Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez au Parc des Princes à Paris. En jeu, prendre une option sérieuse pour la qualification pour la finale à Istanbul le 29 mai. Hier, le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est fait bousculer 1-1 à domicile par les Anglais de Chelsea, dirigé par Thomas Tuchel en demi-finale aller 8 jours avant le match retour à Londres. L'attaquant madrilène Karim Benzema a répondu d'une frappe acrobatique à la 29e minute à l'ouverture du score précoce de Christian Pulisic. À la 14e, le Français devenant à l'occasion le 4e meilleur buteur dans la compétition Rennes avec 71 réalisations, à égalité avec Raoul, l'ancien attaquant du Real. NBA, Brooklyn est la première équipe de la conférence Est à avoir validé son ticket pour les playoffs à la faveur de sa victoire à Toronto et du premier succès en 15 matchs d'Oklahoma City à Boston. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, ce n'est pas une surprise vu l'armada montée cette saison pour tenter de succéder aux Lakers. C'est d'ailleurs sans James Harden, toujours blessé, à moins d'un mois des playoffs, qu'ils ont fait le job 116-103 chez les Raptors. 12e et qui lutte péniblement pour une place en barrage. Si Brooklyn, leader à l'Est, est déjà qualifié en play-off, il le doit aussi à la victoire 114-104 de Milwaukee à Charlotte, empêtré dans une série négative de 14 défaites. Oklahoma City a régoûté à la victoire 119-115 sur le parquet des Celtics. Cette troisième défaite de rang contraint Boston à partager sa sixième place avec Miami. Indiana 9e a subi la loi de Portland 133-112 et après ce premier succès en 6 matchs, les Blazers demeurent 7e. à l'ouest.
Merci, Bagasikura.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, au lendemain de la manifestation pacifique violemment réprimée par la police, plusieurs organisations de la société civile condamnent ce qu'elles qualifient de massacre. La CTDDH, une ONG nationale de défense des droits de l'homme, avance un bilan de 13 personnes tuées et une soixantaine de blessés. Le point avec André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, en N'Djamena.
Nous sommes d'autant plus attristés que les forces de défense et de sécurité aient usé de violences inouïes sur des manifestants à main nue.
Maître Max Lualngar, président de la LTDH et membre de la coordination des actions citoyennes, en sa qualité d'avocat au barreau du Tchad, il prévient les manipulateurs de l'histoire qui tenteraient d'imputer la responsabilité aux organisateurs de ce mouvement d'humeur. Car, dit-il, les coupables sont ceux qui tirent à balles réelles sur les manifestants. La CTDDH, une ONG nationale des droits de l'homme, a revu le bilan provisoire en hausse.
Il y a deux morts aujourd'hui. Le premier a succombé à ses blessures. Le second a été tué à Walia ce matin. Donc, nous en sommes à au moins 10 morts en 2003 à Bundu, ce qui nous amène à 13 morts pour le moment. 76 blessés à peu près pour tout le Tchad.
Mahamat Nouri Bedou, secrétaire général de la CTDDH, pour lui, c'était une vraie massacre jamais connue, même sous le régime de Déby qui a géré le pays d'une main de fer pendant 31 ans.
Pour nous autres défenseurs des droits de l'homme, c'est l'horreur, parce que jamais au Tchad, il y a eu cette forme de barbarie. Certes, les marches pacifiques avaient été toujours réprimées, mais ça n'a jamais atteint cette ampleur-là.
L'activiste Rassou Gagé condamne fermement l'usage excessif des armes de guerre contre les manifestants et exige la démission du premier ministre Baïmi Padaké Albert, nommé par le CMT.
Le BIFIS est en train de mal démarrer plus que des militaires. C'est l'arme là achetée pour la sécurisation du peuple tchadien. Ce qu'ils font, ils sont pires que Boko Haram. Ça, c'est pas possible pour qu'on peut imaginer comme ça qu'on tue des enfants comme des oiseaux devant. Non, non, il faut que ça cesse. Et le premier ministre, jusqu'à là, il ne s'est même pas prononcé. Où il démissionne. C'est comme ça qu'on doit gouverner les Tchadiens dans le sang.
Le président de la coordination des actions pour la gouvernance démocratique, la justice et l'égalité sociale, Maître Douta Tolngar, tient pour responsable le président français Emmanuel Macron de ses désordres, même s'il a fait un rétropédalage.
Des morts d'hommes qui manifestaient pacifiquement, tirés à balles réelles, des blessés montrés sur les réseaux sociaux. Macron va dormir à l'aise aujourd'hui. Je crois que la transition qui devra se faire demandera un congé diplomatique avec la France pour que le Tchad se sente un État souverain pouvant traiter d'égal à égal. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous réviserons nos relations avec la France.
Pour Dida Mahamad Oumar, président de la CNDH, la Convention nationale des droits de l'homme, la responsabilité est partagée.
C'est vrai, les forces de l'ordre n'ont pas bien géré la situation, mais les manifestants eux-mêmes n'étaient pas du tout pacifiques. Donc j'en appelle à la responsabilité de toucher chacun. D'abord, aux forces de l'ordre, on n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un à temps réel. Et eux-mêmes manifestants, ils n'ont pas le droit de faire descendre une femme qui est dans un bus et la tuer. Ou bien aller attaquer des stations qui appartiennent à des citoyens tchadiens. Donc, c'est vraiment regrettable. Nous condamnons cela. Et nous condamnons également le comportement de la police.
Jusque-là, les responsables de la police nationale ne communiquent pas encore sur le bilan de cette journée sanglante. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sahel, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Près de 29 millions de personnes sont victimes de l'insécurité, du changement climatique, du Covid-19 et ont urgemment besoin d'aide selon les agences d'aide des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales. Mohamedou Oumfa s'est entretenu avec Tom Peire Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, une des organisations qui vient en aide aux populations du Sahel.
Aujourd'hui, on a plus de 29 millions de Sahéliens qui ont besoin d'une aide humanitaire et de protection. Et ça représente 5 millions de plus qu'il y a seulement un an. Donc la situation s'aggrave rapidement. Et aujourd'hui, on a plus de 5 millions de déplacés qui se retrouvent dans le besoin. Donc l'augmentation de la sécurité a un impact sur les populations, mais aussi sur l'accès humanitaire des ONG et des Nations Unies. on a de plus en plus de mal sur le terrain à avoir accès aux populations qui sont dans le besoin.
Comment expliquer l'aggravation de cette crise humanitaire? Quelles en sont les causes?
Alors les causes majeures de cette situation sont multiples. L'insécurité étant le principal facteur. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis les 5 dernières années, le nombre d'attaques a été multiplié par 8 dans le Sahel et a triplé dans le bassin du lac Tchad. Mais l'insécurité n'est pas le seul critère de l'aggravation rapide de la crise humanitaire, car il y a aussi le changement climatique qui a eu un impact sur les récoltes récemment, mais aussi l'impact du Covid. L'impact socio-économique du Covid dans la région a été très fort pour des populations qui sont déjà vulnérables. La fermeture des frontières, des marchés locaux, des échanges commerciaux a créé une augmentation des prix importante. Et donc les personnes déjà modestes ou vulnérables se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles, en conséquence avec un nombre de personnes dans le besoin qui a augmenté.
Quels sont les efforts menés et quelles autres solutions pourraient aider à améliorer la situation ?
Les ONG et les Nations Unies font ce qu'elles peuvent pour répondre aux besoins, mais nous avons un petit peu les pieds et poings liés. D'abord pour les questions d'accès, comme je vous l'ai dit, notre accès est fortement réduit à cause de l'insécurité, mais aussi parce que la réponse humanitaire dans la région est très peu financée. Seulement 5% des 3,7 milliards de dollars demandés ont été fournis pour répondre aux besoins les plus urgents. Donc là, le financement est beaucoup trop faible. Et en parallèle à cela, il faut une approche holistique. La réponse sécuritaire seulement ne suffira pas. Il faut aussi une approche de développement. Il faut que la présence de l'État se fasse dans ces régions extrêmement pauvres. Il faut que les populations aient accès aux services sociaux de base, à l'éducation, à la santé, pour pouvoir, on va dire, endiguer ce terreau fertile qui pousse de nombreux jeunes à prendre les armes et à se battre.
Tom Peire Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Alors que le président américain Joe Biden s'apprête à prononcer son premier discours lors d'une session conjointe des deux chambres du Congrès, une légère majorité d'Américains approuve sa performance selon un récent sondage. Il y a de nombreux problèmes sur lesquels les dirigeants démocrates et républicains souhaitent que Biden se prononce. Un reportage de Michel Quinn de la VOA, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
L'allocution lors de cette session conjointe du Congrès donnera au président Joe Biden une chance de faire le point sur les jalons de ses 100 premiers jours de fonction et de définir son agenda pour les mois à venir. Dans un récent sondage du Washington Post et ABC News, 52% des Américains approuvent la performance de Joe Biden. Cette légère majorité est inférieure à celle de n'importe quel ancien président à 100 jours de leur mandat, à l'exception de Donald Trump. L'un des points de satisfaction des Américains, c'est le combat que mène Biden contre le nouveau coronavirus. Il avait promis de faire administrer 100 millions de doses de vaccins dès ses 100 premiers jours. Il est à plus de 232 millions de doses injectées aux Américains. Sur le plan fiscal, de fortes annonces sont attendues. Son plan, qui a suscité déjà la colère des républicains, est ambitieux. 1800 milliards de dollars centrés sur l'éducation et l'aide aux familles. Pour le financer, le démocrate proposera d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous Donald Trump et d'augmenter les impôts sur les revenus du capital pour les 0,3% d'Américains les plus fortunés. Un autre problème que Biden est susceptible d'évoquer, c'est la réforme de la police suite à la condamnation d'un ancien policier dans la mort de George Floyd, un Africain-américain. Un projet de loi démocrate sur la réforme de la police du nom de Floyd a été adopté par la Chambre des représentants et est en cours d'examen au Sénat.
Karen Bass, députée démocrate.
J'espère qu'il soulèvera la question à nouveau et qu'il parlera de l'urgence de faire quelque chose maintenant. Et je pense que cela nous encouragera à faire avancer les choses.
Mais les dirigeants républicains veulent que Biden aborde la question de l'immigration et la situation à la frontière américano-mexicaine qu'il qualifie de crise. Dans le même sondage, 53% des Américains disent qu'ils désapprouvent la gestion du problème par Biden. Les républicains y voient une zone vulnérable pour le président.
Rick Scott, sénateur républicain.
Nous devons créer la sécurité à la frontière et voir comment faire de ce pays un pays où les gens qui veulent vivre le rêve que nous voulons vivre peuvent venir ici sur une base légale.
L'administration Biden envisage des politiques pour améliorer les conditions en Amérique centrale afin d'aider à endiguer le flux de migrants. La vice-présidente Kamala Harris, qui est en charge de ce dossier épineux, devrait se rendre dans la région en juin prochain.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le président Joe Biden boucle ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis. Son taux de popularité se situe à 52% selon un sondage réalisé par la chaîne ABC News et le quotidien Washington Post. Ses points forts, la lutte contre le COVID-19 et la relance de l'économie. Le sondage révèle par ailleurs que le dossier de l'immigration reste un défi pour le locataire de la Maison-Blanche, sans oublier les relations tendues entre la police et les minorités. Avec nos invités, nous analyserons les 100 premiers jours de Joe Biden à la présidence ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Pendant le Ramadan, de nombreuses mosquées sont ouvertes, mais la fréquentation est limitée à cause des restrictions pour limiter la propagation du COVID-19. Il n'y a donc aucune garantie de trouver une place pour prier. Mais de nouvelles applications téléphoniques viennent combler ce vide, comme nous l'explique Nova Poywadi dans ce reportage. Le récit est de Salwa Jafari.
De nombreux musulmans profitent du mois sacré pour renforcer leur lien avec leur créateur en passant de longues heures à la mosquée. Mais pour maintenir le nombre de fidèles en deçà des capacités fixées par les autorités locales en raison des restrictions liées à la pandémie, les mosquées ont dû faire preuve de créativité.
Mohamed Joban est imam à la mosquée Rahma.
Nous avons deux prières, une immédiatement après la prière d'Isha le soir et une autre vers 11h.
Les mosquées ont également adopté la technologie pour faciliter l'enregistrement en ligne. C'est le cas de la mosquée dirigée par l'imam Mohamed Joban dans l'État américain de Washington.
Nous sommes maintenant autorisés à 20% de capacité. Dieu merci, notre mosquée est assez grande, pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Maintenant, chaque prière est suivie par 200 personnes. C'est premier enregistré, premier servi.
La mosquée à Rahma utilise une application appelée Smart Jama'a qui se traduit par congrégation intelligente développée par un ancien programmeur d'IBM. L'application suit la fréquentation des mosquées participantes et avertit également les utilisateurs des annulations. Zahir Sheikh est développeur de l'application Smart Jama'a.
Nous voulions créer ces outils comme au niveau des entreprises, car ils donnent aux masses des outils entièrement gratuits afin que nous, mosquées, nous n'ayons pas à dépenser leurs ressources.
Une autre application utilisée par les mosquées à travers les États-Unis est celle de Masjid, ou l'application Mosquée. Le Masjid et le Smart Jama'a ont été initialement développés pendant la pandémie de coronavirus pour aider à assurer la sécurité des mosquées. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour aider à coordonner les prières nocturnes pendant le Ramadan, le Taraweh. Khalid Mahmoud, développeur de l'application Masjid. No registration
required. Tout le monde peut télécharger l'application et se connecter afin que vous puissiez ensuite effectuer une recherche par emplacement pour trouver votre mosquée.
Les mosquées aux États-Unis ont réussi à trouver un équilibre entre l'enthousiasme renouvelé de se rassembler pour la prière et la nécessité de garder tout le monde à l'abri du Covid.
C'était
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à Lionel Lunamila Gahima, à Michel Père-Joseph, à Joselle Morissin, à Georges Léonard Sagno de la production qui ont permis la réalisation de cette édition. Eric Mandela Kiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.